Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et explore l'art de vieillir avec sérénité. Ces dernières semaines, après avoir fait le bilan de mon année et mon budget 2021, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ma consommation de produits et de me demander comment la publicité nous rejoint dans le présent contexte d'achat en ligne et des magasins qui viennent tout juste de réouvrir. Comment la publicité voudra-t-elle nous donner envie d'acheter maintenant que l'on peut désormais se procurer des articles qui ne sont pas essentiels? Je me suis aussi demandé comment la publicité s'adressait aux différentes générations, particulièrement aux aînés. Et là, je me suis dit, ce serait merveilleux si on pouvait avoir accès à un publicitaire qui serait directement concerné par ce groupe d'âge, quelqu'un de plus de 65 ans. Et puis tiens, on l'a sous la main, on a décidé d'inviter Richard Leclerc pour sa troisième apparition au micro d'Au fil du temps. Vous allez reconnaître sa belle voix de radio. Richard est un publicitaire reconnu et qui enseigne également la publicité depuis plus de 36 ans à l'Université de Montréal. Donc, on va démystifier avec lui tout ce qui est marketing gris destiné aux têtes grises, qu'on appelle aussi la « silver economy ». Et je me suis mis à réfléchir aussi plus globalement, là, comment notre consommation, particulièrement de musique, a évolué. Parce que ça fait partie de nos achats. Et évidemment, on fait jouer de la musique ici au fil du temps. Dans le contexte où il y a plus en plus de gens qui écoutent de la musique en streaming et qui achètent moins de disques ou même d'albums, comment notre consommation de musique a évolué au fil du temps? Alors, pour en discuter, nous allons recevoir Michel Daunet, qui est un tripeux de musique. Il tient la chronique vinyle au magazine TED, qui est tendance et design. Et avant de le recevoir, je vous offre une pièce musicale qui me rappelle mon tout premier emploi sérieux en tant que disquaire chez Polisson aux Galeries Normandie. Donc, j'avais l'occasion de faire entendre la musique à différentes personnes. Alors, j'étais peut-être... un algorithme avant mon temps. Alors, je vous offre 33 tours des deux frères.
Derrière le comptoir d'un vieux magazine disque, quelque part, à deux pas du Mile End, tu vendais des vieux vinyles usés dans une boutique. T'avais 17 ans pis la vie c'était loin d'être Disneyland. Mais quand la cloche a retenti au-dessus de la porte, t'as tout de suite su que c'était l'amour qui rentrait. La neige fondait deux fois plus vite en dessous de ses bottes, puis le soleil la suivait entre les volets. T'as presque arrêté de respirer quand t'as pris un vieux record des Clash. Qu'a dit, penses-tu que tu peux me trouver? Le tout premier de Johnny Cash te dit, ben, je peux bien essayer de car passer dans une semaine en priant pour qu'elle aille pas regarder dans le bac où il y en avait une dizaine. Revenu une semaine plus tard, t'avais caché le disque qu'elle cherchait derrière ceux d'Elvis. T'avais la phrase parfaite pour l'inviter un soir. Il fallait seulement t'attendre le moment propice. Elle s'est approchée du comptoir en y mettant sa main, a frôlé la tienne, a dit, pas de trace de ce que je vais avoir, de bégayer peut-être dans une semaine. Jeudi suivant, t'avais pas dormi de la nuit, tellement t'étais nerveux d'y dire, veux-tu qu'on sorte quelque part? T'avais choisi d'y offrir le vieux record de Johnny, en souhaitant juste que ça mettrait les chances de ton bord.
même pas eu le temps de l'aider. A pris le disque puis à te lancer. Depuis le temps que j'rêve de l'entendre, viens-tu l'écouter dans ma chambre? Tu as souri malgré ta gêne. Tu l'as suivi jusque chez elle. J'en ai chanté I walk the line. Et ta main glissait sur ses dentelles. Puis c'est là que tu l'as remarqué. Sa tablette en plexiglas, son autre exemplaire usagé. Du premier disque de Johnny Cash.
C'était 33 tours des deux frères. Les 33 tours, notre premier invité connaît ça. Michel Daunet tient la chronique Vinyle au magazine TED pour Tendance électronique et design, un média que lisent les audiophiles et les tripeux de systèmes de son. Michel est aussi programmeur senior chez Audiokinétique et c'est le numéro 1 mondial dans les logiciels de musique de jeux vidéo qui ont notamment comme clients des grands joueurs comme Ubisoft. Alors bonjour Michel.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Alors Michel, au fil du temps, on parle bien sûr des différentes générations et j'étais curieuse qu'on parle ensemble de comment notre consommation musicale a évolué au fil du temps. Et... est-ce que je me trompe si un des plus gros changements, c'est le streaming ou dite musique dématérialisée?
Oui, totalement. En fait, la musique dématérialisée a commencé son évolution à partir des CD. Puis à partir, lorsqu'on a commencé à acheter nos disques compacts, éventuellement, on a eu un ordinateur, puis on voulait les mettre sur notre ordinateur pour pouvoir y avoir accès toujours et pouvoir faire nos playlists. Mais dans le fond, ce principe-là existait toujours avant. On avait simplement des cassettes. Donc, on prenait un disque puis on mettait ça sur des cassettes. C'est la même chose qu'aujourd'hui, on a avec les playlists qu'on a sur nos ordinateurs. Puis, c'est pas mal intéressant parce que, justement, cette évolution-là a continué avec le streaming, justement, qu'on va retrouver aujourd'hui avec les iTunes, les Tidal, les Spotify de ce monde, même YouTube en même temps. La majeure partie des adolescents vont écouter leur musique sur YouTube. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, on se retrouve avec, dans le fond, des playlists qu'on va retrouver à travers le monde, de chansons à travers le monde, pas juste local, pas juste ce qu'on a pu entendre, mais en même temps, ce qu'on peut retrouver à travers la planète. C'est vraiment intéressant.
Bien, c'est un des arguments de mes fils qui ont 17 et 27 ans. Eux, ils n'ont jamais eu de cassette. En fait, je pense qu'ils n'en ont jamais vu, tenu dans leurs mains, ou de disque. Et ils argumentent sur le fait qu'ils ont accès à plus de découvertes musicales a priori. Mais en même temps, Isaac Analem, on discutait de ça, Maurice et moi, on se dit « Mais est-ce que c'est un algorithme de me suggérer des chansons, sachant qu'il me suggère quelque chose que j'aime déjà? »
Bien sûr, et c'est exactement le but de ces systèmes-là. Si moi, je suis un admirateur de la musique classique, et si j'écoute, par exemple, je vais y aller avec le classique Beethoven, Mozart, donc les romantiques des années 1800 et un petit peu avant, si je me retrouve avec une chanson de The Clash en plein milieu, je crois pas que les algorithmes vont avoir fait un bon travail. Donc, le but de ces algorithmes-là, c'est un petit peu comme ce qu'on a décrié sur Facebook. Soit quand on commence à parler d'un genre un genre de matériaux, si on aime quelque chose en particulier, Facebook va continuer de nous alimenter avec ça. Si on va sur YouTube et on dit j'aime ça voir des recettes de gâteaux, ben YouTube va continuer à t'envoyer des recettes de gâteaux, c'est ce que tu veux. Donc éventuellement tu demandes à Spotify d'avoir de la musique de Beethoven constamment, ben tu vas avoir la même chose. C'est donc tout à fait normal. Et ces systèmes-là, en fait, plus ils nous proposent des choses dans lesquelles on est confortable, mieux ils gagnent leur pain avec ça. Ce n'est pas leur but de nous brusquer dans leur démarche.
Mais en même temps, il y a des playlists de découvertes musicales. Je pense à mon grand ami Eric qui écoute chaque semaine là, ses découvertes musicales. Et il me dit qu'ensuite, ça lui permet d'acheter de la musique. Parfois, il achète ses vinyles avec des suggestions que Spotify lui a fait. Puis lui, c'est vraiment, là, ça en est vraiment un tripeux, là, de s'asseoir, écouter de la musique. Il y a un système de son avec des drôles de tubes, là, que je comprends oui. pas. Mais c'est vraiment un audiophile. Mais tu sais, je me posais aussi la question, est-ce qu'on écoute autant la musique sur du streaming qu'on pouvait vraiment l'écouter quand on écoutait sur un système de son avec le vinyle et autres?
C'est une excellente question. En fait, c'est vraiment l'opposé qui se produit. Mm. On écoute beaucoup plus de musique aujourd'hui, mais c'est de la musique qui est plus, je vais dire, consensuelle par rapport à nos goûts. Donc, c'est quelque chose qu'on va plus apprécier en règle générale. Maintenant, le gros avantage du streaming, c'est que ça nous permet de découvrir de la musique à travers la planète. Donc, si on s'intéresse à aller voir les sous-sections à l'intérieur des différents sites, par exemple Spotify et Tidal et tous ces systèmes ont des sections nouvelles musiques, nouveautés musicales, dans lesquelles des gens vont dire « Ah, ça peut être intéressant de présenter ça ». Donc, c'est un petit peu la même chose que la radio. En fait, quand on était, on écoutait la radio, ou quand on écoute encore aujourd'hui
la radio,
bien
à Canal M.
Bien sûr, on reçoit des nouvelles pièces musicales qu'on ne connaît absolument pas et ça nous permet de découvrir différentes pièces musicales. Donc, même si on l'écoute uniquement sur Dyn, éventuellement, il y a une pièce musicale qui va nous intéresser, qui va nous dire, va nous décrocher de notre monde, va venir nous rechercher puis dire « Ah, oh, c'est intéressant, j'aimerais ça pouvoir l'écouter celle-là ». Et justement, la musique dématérialisée nous permet ça. Donc ensuite, on peut faire des recherches. On peut déjà avoir les services à la Shazam dans lequel mm-hmm. on va pointer notre téléphone oui. sur le système. Mais sinon, on peut toujours aller aussi sur les différents postes de radio. Les postes de radio vont toujours donner la liste des dernières choses qui ont été jouées. Et on peut aussi ensuite aller découvrir ça, aller sur son YouTube ou son Spotify et aller essayer de voir un petit peu plus sur ces artistes-là. C'est vraiment une ouverture qui nous permet de ne pas aller voir notre magasin de disques. Donc, il y a beaucoup plus de musique parce que tout le monde en écoute constamment. En fait, c'est un petit peu la même chose qu'en radio. Donc, quand on est dans notre auto, quand on est dans la maison, on écoute ça tranquillement, on a quelque chose d'intéressant, puis donc, éventuellement, on entend des choses. Donc, c'est des gens qui ont décidé de nous faire écouter quelque chose, soit parce que c'est une entente avec un label mm-hmm. de disques, soit parce que c'est une ouverture d'esprit, puis dire « Ah ouais, j'ai le goût d'essayer quelque chose », mais éventuellement, cette playlist-là va se retrouver chez nous. Alors, les YouTube, les Spotify, mm-hmm. Ils vont faire exactement la même chose.
Bien, je pense que ça amène la notion de curiosité parce qu'on a eu un invité au fil du temps qui disait qu'en vieillissant, on gagnait à essayer d'écouter des choses qu'on ne connaît pas, justement pour élargir notre cerveau puis à rester dans la nouveauté. Et moi, j'aime particulièrement Maurice Bolduc ici, qui est en régie, me suggère des pièces musicales et j'aime ça parce qu'il m'amène à des endroits, des pièces, me faire connaître de la musique que je ne connais pas et je trouve ça rafraîchissant. Donc, ça veut dire qu'il faut être curieux.
Oui, définitivement. Et il y a aussi, par contre, l'opposé de mm-hmm. ça qui dit qu'à partir de ta vingtaine, l'oreille arrête de vouloir rechercher des nouvelles choses. Mm-hmm. Les bonnes vieilles chansons arrivent environ quand on a 20 ans. Donc, quand on est à 40 ans, 50 ans, 60 ans, regardez ce qui se passait dans les années, dans votre vingtaine, et vous allez avoir habituellement le genre musical que vous allez aimer. Donc, oui. Allez sur les billboards, allez voir tout ça, allez voir dans les années 20, de votre vie. Et vous allez voir que c'est automatiquement des chansons que vous connaissez tous par cœur, même que vous l'aimiez ou non, que vous aimiez Britney Spears ou non, que vous aimiez telle personne ou non.
Mais il y a quand même justement un plaisir, des plaisirs même coupables à écouter de la musique qu'on aime. Mais je pense qu'il faut faire l'effort d'écouter quelque chose de différent. Et je pense que je vous ai mis au défi, Michel, de nous trouver une pièce musicale. On a parlé un petit peu de streaming, d'accès à de la musique d'ailleurs. Et je vais vous inviter à présenter la pièce musicale que vous avez choisie.
Bien sûr. Alors, c'est Rosa Luxembourg du groupe russe Mommy Troll. Alors, ça existe depuis 30 ans, ce groupe-là. Mm-hmm. C'est vraiment un groupe, c'était dans les groupes dissidents de l'Union soviétique. Puis ce disque-là vient des années 1997, si je me rappelle bien. Et le gros avantage quand on parle de la puissance du streaming, c'est que si vous savez que le groupe s'appelle Mommy Troll et que la chanson s'appelle Rosa Luxembourg, ça, bonne chance parce que c'est écrit en cyrillique.
Oui, c'est ce que je me suis aperçu.
Vous allez pouvoir la retrouver, vous pouvez faire un Shazam dessus, vous allez l'avoir quand. Pourtant, c'est un groupe de Russie que normalement vous payerez 150$ pour importer un disque vinyle avec eux.
Donc, on va écouter cette pièce musicale, puis au retour, j'aimerais qu'on parle justement le retour du vinyle, l'impact de tout ça, et puis aussi, bien, inévitablement, l'impact là, du streaming sur nos artistes. Alors, on écoute votre suggestion musicale, Rosa Luxembourg de Mommy Troll. C'était Rosa Luxembourg de Mommy Troll. C'est M-U-M-Y-M-I-Y-Troll. Hey, c'est bon, Michel!
Je suis content que vous aimiez ça. C'est un des meilleurs groupes pop-rock, soft-rock, un peu punk russe des 30 dernières années. Mais il y en a plein comme ça que moi, je découvre puis que j'ai leur disque vinyle. Même chose que j'ai un groupe qui s'appelle Pizza. Je veux dire, évidemment, en russe. Il y a plein de groupes comme ça que je découvre de tous les pays. C'est vraiment génial. Il n'y a pas juste les Fela Kuti qu'on peut retrouver de l'Afrique du Sud. On va avoir plein d'autres groupes à travers le monde. Et c'est ça qui est vraiment génial.
Absolument. Mais vous parliez de vinyle et évidemment, là, vous tenez la chronique Vinyle au magazine TED. C'est quoi ce buzz autour du retour du vinyle qui est rendu un objet vintage? Moi, j'ai l'impression que justement, avec la musique dématérialisée, on perd aussi la relation à l'objet et le rituel derrière écouter la musique. Moi, je me rappelais, j'aimais m'asseoir et donner rendez-vous à un artiste, lire la pochette, vraiment m'installer et découvrir.
Ah, totalement, vous avez raison, en fait. Et c'est un peu le gros du problème avec la musique dématérialisée, avec la musique qu'on a même sur des serveurs pour les gens qui ont vraiment des grosses collections, qui ont mis tous leurs CD à l'intérieur, c'est que On c'est un petit peu un entre-deux. On dit beaucoup que les adolescents, ils ont même pas le temps de finir la chanson de 2 minutes, qu'ils veulent en mettre une autre. Ben, c'est un petit peu la même chose que tu as le goût de faire avec la musique dématérialisée. On se retrouve avec à pas vouloir finir plus qu'une pièce musicale qu'on veut déjà passer à un autre album. Donc, il y a quand même
une lenteur, une découverte, oui, de prendre le temps.
Exactement. Voilà, on n'a pas le choix de prendre son temps. Évidemment, on peut avoir 2 platines, puis là, ben, y aller, puis faire du mix. Mais ça c'est vraiment quand on veut vraiment être lâcher son fou rendu là.
Mm-hmm.
Je dirais que on va d'abord mettre un bémol sur le vinyle et en fait sur le CD aussi. La raison pour laquelle le vinyle se retrouve en numéro 2 maintenant après la musique dématérialisée, mm-hmm, et avant le CD, donc il se vend moins de CD que de vinyle aujourd'hui.
OK, d'accord.
C'est parce que le CD est en pleine décroissance complète. Les gens n'achètent plus de CD. Mm-hmm. C'est plus... En fait, si on prend les CD puis les vinyles, c'est même pas 10% des marchés.
Wow!
C'est donc, si on prend après le streaming et les téléchargements et les différents autres systèmes, là, on va se retrouver avec la très, 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 très grosse majeure partie des ventes aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'argent avec un CD. Évidemment, si on vend des CD, puis si jamais on en vend 1 million, ben on est un 0,01% de marché là-dedans. Mais d'un autre côté, on a quand même vendu 1 million de CD. Donc, ça reste quand même lucratif. Mais on va mettre le bémol que, en fait, mm-hmm, c'est démesuré comme niveau présentement versus les systèmes qui sont, disons la musique physique versus,
oui,
la musique dématérialisée. Moi, j'achète des disques vinyles pour plusieurs raisons, évidemment, mm-hmm, parce que d'abord, on peut retrouver une boîte gratuite de disques vinyles. On se rend chez notre...
Ouais.
On se rend chez notre fournisseur de disques qui nous connaît bien. Il,
ouais,
dit, ah, tiens, regarde, j'ai cette boîte-là, c'est tous des petits disques. Commencer une collection avec, mm-hmm, plein d'excellents artistes, ça coûte rien.
Ouais.
Ensuite, on peut se rendre d'autres niveaux beaucoup plus loin et on peut dire que moi, quand j'achète un disque vinyle, je sais que je fais plaisir directement à l'artiste.
Ouais.
Donc, beaucoup plus d'argent qui va, il y a quelques dollars qui va à l'artiste directement versus la musique dématérialisée, que ça prend des millions de vues pour avoir une chance d'avoir quelques milliers de dollars.
Ben, c'est fou. C'est fou. Je pense,
oui,
entre autres, il y a Damien Robitaille, entre autres, là, qui amène de la joie dans notre vie, où il fait une chanson qu'on voit sur YouTube presque à tous les jours, que ce soit une reprise. Et il y a sa reprise de Pom Pom de Jam qui a atteint plus de 4 millions de vues. Mais bon, c'est un succès d'estime, mais l'impact financier de ça...
pas tant, hein? C'est ça le problème, en fait. C'est que l'argent ne va pas nécessairement directement à l'artiste qui va réaliser ça, parce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher, en fait, de faire la musique dématérialisée, et c'est des grands groupes qui vont s'en occuper.
Mm-hmm.
Ceci dit, si on prend Spotify, ils font beaucoup d'argent, mais non plus, ils roulent pas tant que ça sur l'or en tant qu'entreprise.
Mm-hmm.
Si on prend Tidal, ils sont presque en train de fermer. Donc, même si on dit ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent qui s'en va à ces différents aux artistes, puis qu'ils devraient en avoir plus, le marché fait présentement que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent qui va aux artistes ou à personne, mm-hmm, qui fait de la musique. Nous, quand on se rend sur YouTube, on ne paye pas pour.
Mm-hmm.
Donc, il y a une publicité des fois au début, puis ben voilà, donc peut-être que ça va se retrouver aux artistes. Donc, il y a quand même une notion ici que ben il n'y a pas tant d'argent par le principe et encore par la façon que c'est fait qui peut être envoyé aux artistes. Moi, je vais y aller avec mes amis artistes aussi.
Mm-hmm.
Je veux dire, les grosses entreprises, je m'excuse, mais je peux les envoyer promener un petit peu. Gentiment, bien entendu, parce que pour moi, c'est les artistes, surtout ces années avec la COVID présentement.
Mm-hmm. Ah, c'est épouvantable, oui.
C'est vraiment épouvantable.
Il y a des limites à se réinventer, là. Ils peuvent pas donner de concerts, ils vont faire des concerts en ligne, mais...
Ben non, c'est ça. Il faut faire de l'argent éventuellement, il faut faire quelque chose. Je prends mes amis de Lisbon Lux Records qui ont plein d'excellents artistes québécois, français, mm-hmm, d'un peu à travers le monde. Ils font des millions et des millions de vues sur YouTube. Mais eux, c'est des bandes, ils passent du temps à polir leur musique, ils ont de la production, ils ont des vidéoclips, ils ont les personnes qui travaillent sur les vidéoclips, ils passent des centaines et des centaines d'heures, beaucoup de matériel, beaucoup de choses.
Oui.
Et ils font, on regarde, ben ils font des quelques milliers de dollars pour un vidéoclip qui ont passé des dizaines de milliers de dollars à réaliser. Pourtant, il y a 1 million de personnes qui l'ont vu, le vidéoclip. Donc, éventuellement, il faut se dire, ben oui, on veut pousser à l'extérieur, on veut faire des choses, mais il faut éventuellement qu'il y ait un peu de retour qui revienne avec
absolument.
Là-dessus.
Michel, on va aller complètement ailleurs. On explore différentes générations ici à Au fil du temps. Puis peut-être pour ma dernière question, je vais aller vers les plus jeunes générations. Et ça tombe bien, ça fait partie de votre second, en fait, de votre autre métier. Mon fils écoute de la musique de jeux vidéo. Et mon massothérapeute m'a dit qu'il aimait ça écouter de la musique de jeux vidéo. Et là, je découvre que c'est ce que vous faites dans la vie. Fait que parlez-moi de ça.
Oui, bien sûr. Alors, autant je fais des chroniques vinyles du magazine TED parce que pour moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de faire partager l'univers des disques vinyles et surtout des disques neufs.
Oui.
Mais chez Audiokinetic, on réalise en fait un logiciel qui permet aux grands, donc les Ubisoft de ce monde, de pouvoir intégrer de la sonorité, de la musique à travers leurs produits sur toutes les plateformes, sur tous les systèmes. Donc, éventuellement, ben évidemment, si vous étiez dans les groupes de discussion à l'intérieur de l'entreprise, vous verriez qu'on s'envoie de la musique à tour de bras. Il y a un engouement, justement, sur la musique, autant très rétro, genre les Super Mario Bros et les musiques qu'on connaît toutes par cœur des années 80, que de la musique beaucoup plus moderne. J'ai beaucoup de disques ici de musique, justement, pour faire les deux. J'ai des musiques en vinyle de différents artistes et différents groupes et différentes productions de jeux vidéo.
Michel, on va devoir s'arrêter. C'est une discussion passionnante. J'adore la musique. Alors, on aura peut-être l'occasion de se reparler.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Michel Daunet du magazine TED pour la chronique vinyle.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Consomme, consomme. Consomme, consomme. Consomme, consomme.
Quand j'étais tout petit enfant,
consomme, consomme.
On me nourrissait de slogans.
Consomme, consomme.
Mange ton pablum si tu veux devenir un homme.
Je suis venu au monde dans un dessin,
plus riche pays de la planète,
et puis je rouspète,
mais je sais bien dans ma petite tête, ça prendrait rien qu'une allumette pour que ça pète. Si je vivais aux États-Unis, j'aurais un plus haut niveau de vie, et puis tant pis.
Mais pour me consoler, je me dis, j'aurais pu naître en Birmanie ou en Russie.
Consomme, consomme.
Et quand j'étais adolescent,
consomme, consomme.
Mes parents me donnaient de l'argent,
consomme, consomme.
Pour que je m'achète des cigarettes,
consomme, consomme.
Du bubblegum pis des albums,
consomme, consomme.
Tout le kit du parfait petit bum.
L'argent c'est fait pour faire des petits.
Profites-en pendant que t'es en vie.
Du rock, du fun, du sexe. Si tu peux pas payer aujourd'hui,
mets ça sur ta carte de crédit.
Masters, Diners, Chargex. Au lieu de faire des économies, pense donc un peu à tes amis qui sont mal pris.
Consomme, consomme.
On n'a pas tous les jours 20 ans.
Consomme, consomme.
je m'en suis payé du bon temps.
Consomme, consomme.
J'ai vu New York, Paris et Rome.
Consomme, consomme.
Bourlinguer sur la route du Rhum.
Consomme, consomme.
Et je suis devenu un homme.
J'ai bu un verre dans le jet set. J'ai vu l'envers de la planète, c'était bellette. J'étais hippie puis maoïste. J'ai fini chez le psychanalyste, c'était bien triste. J'ai rencontré la femme que j'aime, puis je suis rentré dans le système. Youpi, amen.
Consomme, consomme.
Et puis un jour, j'ai eu 30 ans.
Consomme, consomme.
À mon tour, j'ai eu des enfants.
Consomme, consomme.
Des petits tanins qui crient tout le temps.
Consomme, consomme.
Papa, maman, on veut de l'argent.
Consomme, consomme.
Des yo-yo, des bolos, des robots, des vélos.
Consomme, consomme.
Et bientôt des motos, des autos, des bateaux.
Consomme, consomme.
Des stéréos, des vidéos.
Consomme, consomme.
C'était Consomme, consomme de Robert Charlebois. Nous parlions de consommation musicale dans la première partie d'Au fil du temps. Et là, j'avais envie d'élargir à la consommation plus générale, mais dans un axe plus particulier, c'est-à-dire la consommation, en fait, qu'on souhaiterait, ou la publicité qui s'adresse aux plus de 65 ans. Donc, nous avons invité Richard Leclerc, publicitaire, professeur à l'Université de Montréal depuis 36 ans, fondateur de Publicitaire pour les grandes causes humanitaires, citoyen engagé dans Brome-Missisquoi et, en fait, j'ai quasiment envie de dire chroniqueur au fil du temps, c'est sa troisième participation. Bonjour, Richard.
Bonjour.
Je sais que tu aimes beaucoup Charlebois.
Oui, ça tombe bien.
Et quand j'entendais ça, on me nourrissait de slogans. J'ai pensé à toi.
Écoute, moi, j'écoute Charlebois depuis pas mal longtemps, parce que comme tu parles des 65 ans et plus et que j'en fais partie, je connais Charlebois, moi, depuis les tout débuts.
Oui. Dis-moi, Richard, justement, tu as vu l'évolution de la publicité au fil du temps. Et j'étais curieuse de voir, on dirait que les marques sont centrés vers les jeunes générations, déploient sans cesse des nouvelles stratégies pour les rejoindre, mais pourtant, d'ici 2030, une personne sur quatre au Québec aura 65 ans et plus.
En effet, donc, c'est une réalité.
Donc, c'est quoi les opportunités que les marques manquent en ce moment, là, en ne s'adressant pas aux personnes de plus de 65 ans?
Ben, écoute, la première chose que je dirais, c'est qu'on ne va pas généraliser dans le sens que il y a déjà des campagnes qui sont faites pour les 65 ans et plus. Peut-être qu'elles t'atteignent moins parce que tu ne fais pas partie du groupe cible. Mais
effet.
Moi, j'en vois.
Est-ce que ça te rejoint?
Ben oui, ça me rejoint. Mais ce qui est certain, finalement, c'est que, comme tu l'expliquais si bien, on fait maintenant partie, les baby-boomers, nés entre 45 et 55, d'une masse critique de plus en plus importante. En fait, nous, on a toujours été atteints par la publicité. On y pense, là. T'sais, moi, là, effectivement, je me rappelle des pubs de pop sac à vis au sac chopin des années 60 avec Desjardins. Puis, en fait, moi, j'ai grandi avec la publicité. Bon, le fait d'être publicitaire aussi, ça aide à avoir une bonne mémoire de toutes les campagnes qui ont pu être réalisées. Mais moi, je dirais que on continue maintenant de nous parler, les baby-boomers, parce que on a quand même ce que j'appellerais un pouvoir d'achat intéressant. Dans l'article là, que tu proposais déjà en parlant de 2030, là, que j'ai lu aussi, on considère que finalement, on représente 20 % des ménages en 2019, mais 28 % des avoirs. Alors, forcément, on est à la limite même un peu surreprésenté. Autrement dit, les baby-boomers, cette catégorie-là, a quand même de l'argent si on compare finalement aux moins de 35 ans, qui ont 23 % des ménages puis 9 % des avoirs.
Oui, en effet.
Alors, moi, je pense que c'est un groupe cible intéressant pour beaucoup d'entreprises. Puis, il y a une chose aussi, c'est le fait que, tu sais, moi, je pense à mon père, là, qui est décédé à 90 ans. Il était pas très actif après 55 ans. Alors qu'aujourd'hui, on l'est davantage.
Oui, c'est un fait.
Moi, bon, en effet, j'ai la chance en plus de continuer à travailler, d'enseigner à l'Université de Montréal, d'avoir encore quelques contrats en publicité. Je suis donc très actif dans le sens que je me déplace, je bouge, je vais, bon, quand c'est, on n'est pas en pandémie, je vais au restaurant, je vais au cinéma, je vais au théâtre, et finalement, on est encore un marché cible très intéressant pour beaucoup d'annonceurs. Puis, l'autre chose aussi, c'est que il faut faire attention malgré tout. C'est parce qu'il y a comme un paradoxe dans tout ça.
D'accord.
Parce que, tu sais, moi, à la limite, là, ben, tu le sais, je veux dire, ma conjointe est députée au fédéral. Et elle fait une campagne en ce moment pour que la pension de la sécurité de la vieillesse soit augmentée de 110$ par mois pour les gens de 65 ans et plus. Quand je parlais tantôt de ne pas généraliser, c'est qu'il y a un groupe de 65 ans et plus.
Absolument.
Encore un pouvoir d'achat intéressant, mais il y en a aussi beaucoup qui ont un pouvoir d'achat qui est de moins en moins intéressant dans le sens que tout augmente, les loyers augmentent, l'alimentation, tout augmente, puis il y a quand même un groupe qui vit quand même sur le seuil de la pauvreté. Alors, il y a des catégories. En réalité, en publicité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la segmentation de marché. On identifie des groupes cibles. Et il y a des groupes cibles qui ont encore un pouvoir d'achat, même s'ils sont plus âgés de 65 ans. Et il y en a d'autres qui en ont malheureusement pas beaucoup et qui ont même besoin d'aide. Alors, c'est dans ce sens-là que, finalement, on doit toujours tenir compte, si je peux dire, de ces particularités de segmentation de marché. Mais en tout cas, d'après les choses que j'ai pu lire avant cette entrevue, on est quand même ce que j'appellerais un groupe cible intéressant, particulièrement ceux qui, comme j'expliquais, aujourd'hui sont âgés entre 65 et 75 ans, qui sont parfois retraités, mais parfois encore actifs, même sur le plan travail, donc avec des revenus. Tout ça mis ensemble fait qu'il ne faut pas négliger ce groupe-là.
Bien, je pense qu'il y a même un terme, là, « silver economy », pour décrire ce segment-là.
Exact. Donc, il y a un potentiel. Puis, je pense qu'on ne peut pas négliger quelque potentiel que ce soit aujourd'hui quand on est un annonceur.
Je
parlais de théâtre, de cinéma, puis tout ça. Je crois que quand on va au théâtre, on voit quand même que quelques cheveux gris dans les salles. Même chose au cinéma, même chose, tu sais, on parle de voyages, entre autres. Les voyages, en ce moment, sont plutôt interdits. Non recommandés, disons. Mais la quantité de gens qui voyagent présentement, c'est très important.
Oui, je voyais les 50 ans et plus représentent de 50 à 60 % de la clientèle du monde du voyage et du tourisme. Mais quelque chose, Richard, moi, qui m'étonne, il y a des produits qui sont carrément destinés pour les gens plus âgés et pour qui on prend des mannequins jeunes. Je me rappelle, là, j'ai vu un magazine anti-âge et c'est une fille qui n'avait pas une ride dans le visage. Et vraiment, là, je comprends pas.
Oui, bien ça, écoute, il y a des mauvaises communications.
Ben, c'est assez ridicule un peu.
Sans doute pas. Mais moi, tu vois, en tout cas, je m'occupe d'un petit musée ici à Sutton, le musée des communications et d'histoire, et je suis très conscient que mon groupe cible principal est âgé de 50 ans et plus. Et donc, quand je fais des placements dans les réseaux sociaux, tu sais qu'avec Facebook, par exemple, on peut identifier très précisément le groupe d'âge à qui on veut parler. Alors, je le fais. Tu sais, ça ne sert à rien, quand tu le constates, d'essayer de rejoindre des jeunes de 20 à 25 ans pour venir voir une exposition sur Monique Lérac, par exemple, la prochaine exposition, alors qu'on sait T'sais, ils savent même pas.
C'est ce que j'allais dire, des bonnes chances.
Alors, pour moi, Monique Lérac, mon marché cible est vraiment, tantôt je disais 50, mais même dans ce cas-là, je dirais presque 65 ans et plus. Et donc, il y a donc une conscience de ce qu'on doit faire, finalement. Encore une fois, je reviens au segment de marché. Puis, tout ce que j'ai pu faire, tu sais, l'exposition n'est pas encore ouverte, mais tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à maintenant, que ce soit dans les journaux, tout ça, tous les commentaires que j'ai reçus proviennent de gens de plus de 60 ans.
Qui ont plus de temps aussi. J'ai lu une étude aussi qui a été faite par Sidley, là, une grande firme publicitaire, une étude plus ethnographique à l'été 2019. Et parmi les résultats de ça, ça disait que beaucoup de gens de 65 ans et plus trouvent que les produits qui leur sont destinés ont un design qui est peu esthétique.
Oui, bien, c'est bizarre parce que là encore, il y a une multiplicité de produits, puis il y a des designs très différents, en effet. Mm-hmm. Moi, personnellement, c'est sûr que mes goûts sont très axés sur le design.
Oui.
Compte tenu que j'ai travaillé en publicité.
Exact.
Ça. Alors, moi, dans le fond, quand le design est mauvais, le produit ne m'intéresse pas, simplement. Tu sais, j'achèterais pas un produit que je trouve laid.
Mm-hmm.
Bon, à moins qu'il soit très utile, puis qu'il soit dans un tiroir la plupart du temps, là. Mais c'est évident que, esthétiquement parlant, encore une fois, on fait partie de ce qu'on appelle la révolution tranquille et de tous ces produits qui ont été créés dans les années 70, 80 et qui, avec le temps, sont devenus très intéressants, beaux, bons, abordables, tu sais, que ce soit en alimentation ou en objet d'utilité, tout ça. Alors, je pense que on peut pas définir que 100% des produits sont bons. On peut pas définir que 100% de la publicité est bonne. Mais une publicité bien faite sur un bon produit qui lui fait bien son travail au niveau de ciblage, ben ça fonctionne. Ça fonctionne bien.
Un dernier conseil, peut-être, en tant que publicitaire, si tu avais à s'adresser à une marque qui veut rejoindre les 65 ans et plus, soit que tu as un exemple d'une campagne que tu trouves bien faite ou un conseil que tu donnerais aux marques pour rejoindre les plus de 65 ans?
Bien, de bien choisir ses médias. Mm-hmm. C'est d'aller dans des médias qui vont toucher cette cible-là. Moi, la blague que je fais souvent à mes étudiants, je leur demande, entre autres, s'ils connaissent ça, les bains avec une porte qui s'ouvre. comment on appelle ça? Là, en tout cas, c'est bains avec ces portières.
Ouais.
Puis là, les gens me regardent, ben non, c'est quoi ça? T'sais, à la limite, ils savent même pas que ça existe.
Mm-hmm.
Mais si tu vas sur le réseau de l'information en après-midi, c'est plein. Le message est pas bon, là. C'est pas bien fait. C'est pas. Mais ce message-là, il est très présent parce qu'on sait très bien que les personnes plus âgées qui n'ont pas de travail puis qui n'ont pas beaucoup d'activités, ben, ils sont devant leur télé en après-midi, ils vont voir le message.
C'est ça. Tout comme le... Oui. Tout comme je pense le Bel Âge figure parmi les trois magazines imprimés francophones les plus lus au Québec.
Oui. C'est le temps. Tu sais, dans le fond, là, la plupart des gens de plus de 65 ans ont du temps.
Mm-hmm.
En tout cas, puis quand je dis la plupart, là, comme je disais tantôt, je ne veux pas généraliser, mais plusieurs ont de l'argent. Et forcément, c'est un public cible très intéressant pour certains produits.
Hey, Richard, du temps, nous, on n'en a plus.
Ah, ça y est, déjà.
Déjà, ça passe vite, hein? Donc, merci beaucoup, puis on se reparlera peut-être pour un autre sujet, si ça te dit.
Ça me fera plaisir.
À très bientôt, Richard Leclerc.
Merci.
Publicitaire, très engagé dans sa communauté d'Ambrome-Missisquoi.
Des forfaits SMS, des cures de vitamines A, B, C, D, E, S, des revues, des magazines. Des carottes et des pommes, censément biologiques. Et le nouveau téléphone, bien plus ergonomique. Des frites et des nuggets, des habits, des abats. Du foie gras pour les fêtes, des caddies, des cabas.
des manteaux pour les chiens et des psys pour les chats, des machines, des machins, etc.
Consomme,
PDG,
consomme,
épicier,
consomme,
menuisier,
consomme, consomme,
alpiniste,
consomme,
alchimiste,
consomme,
à la rue,
consomme, consomme,
comédien,
consomme,
bon à rien,
consomme,
chirurgien,
consomme.
Car surtout n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois. Des chicots sur pivot, des implants, des liftings, puis des cures de repos, des séances d'aquagym, des compléments minceurs, des crèmes pour les ridules, des antidépresseurs, des patchs et des pilules, des voitures d'occasion, de l'eau qui fait aller, une piscine, une maison et l'air conditionné, des chaussures à la mode, à vos marques, c'est les soldes, du poisson tant qu'il y en a, etc.
Consomme,
boulanger,
consomme,
financier,
consomme,
saisonnier,
consomme, consomme,
pharmacien,
consomme,
maître chien,
consomme,
normalien,
consomme, consomme,
éboueur,
consomme,
sénateur,
consomme,
gladiateur,
consomme.
Car surtout n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois.
En plastique,
des peintures, des vernis, des couverts
en plastique,
des bagnoles, des babioles, des guiboles
en plastique,
des bols, des paraboles et des cols
en plastique,
des shampoings anti-poux, des sirops 3 en 1, anti-stress, anti-tout et antibactérien, des goodies, des guidons, des gadgets inutiles, des bidets, des bidons et des bidules débiles. Et attendez, ce n'est pas fini. Des saveurs de l'année, des jambons de pays, des labels qualité, de HT1 gratuit, des formats familiaux, des cuisines en aglo, des gâteaux sans gluten, sans gras, sans parabènes, des lingettes jetables qui nettoient sans frotter, des PC, des portables, des frigos connectés, des petits pois du Kenya, des champignons chinois, des kiwis d'Alaska, etc.
Consomme,
garagiste,
consomme,
utopiste,
consomme,
aubergiste,
consomme, consomme,
magicien,
consomme,
galérien,
consomme,
collégien,
consomme, consomme,
chansonnier,
consomme,
cantonnier,
consomme,
chevalier,
consomme.
Car surtout, n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois.
Consomme,
sans revenu,
consomme,
sans diplôme,
consomme,
sans emploi,
consomme,
consomme, professeur,
comptable,
amateur,
consomme,
empereur,
consomme, consomme,
président,
consomme,
sous-lieutenant,
consomme,
tir au flanc,
consomme.
Car surtout, n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois.
C'était « Consommation » de Loïc Desplanques. Alors, toute une liste de choses à consommer. Et je vous en rajoute une. La boîte réconfort de Procure. Alors, pourquoi je vous rajoute ça sur la liste? Parce que acheter des choses pour soi, ça amène du réconfort. Mais en même temps, quand en plus on peut le faire pour une bonne cause, bien, c'est encore mieux. Parce que non seulement on s'apporte du petit réconfort à soi-même, mais on apporte, dans le cas de la boîte réconfort Procure, du soutien pour les 12 hommes qui, chaque jour, apprennent qu'ils ont un cancer de la prostate. J'en profite d'ailleurs pour inviter tous les hommes de plus de 50 ans qui sont à l'écoute à aller passer leur test de dépistage. Et si vous avez des symptômes, à communiquer avec la ligne de soutien de Procure qui est le 1-855-899-2873. Et Procure a également un service de clavardage en ligne où des infirmières spécialisées en uro-oncologie vont pouvoir vous répondre. Donc, la boîte, elle est remplie de petites douceurs, des douceurs québécoises. On sait que l'achat local, c'est vraiment très important en temps de pandémie. Donc, on a du café de Virgin Hill, du thé, tisane, chocolat chaud, des petites douceurs de François Lambert, des tasses de Procure et également de la fondue de chocolat favori. Donc, tout pour un petit déjeuner au lit, pour une soirée chocolatée, une petite pause lecture tisane. Donc, on se procure le tout sur procure.ca et on découvre aussi tout ce que cet organisme fait pour la santé des hommes qui nous tiennent à cœur. Alors, une nouvelle pièce sur... Pièce, vraiment, c'est tout un lapsus. Pièce consomme au maximum de Dupuis.
Vous avez fait de nous de beaux petits robots qui mangent dans vos mains les restes du festin. Vous nous aimez à genoux, mais nous on n'a pas peur. Non, non. Ouais, on se fout de vous, on n'aime pas les crosseurs. Ouais. Vous avez fait de nous de gros consommateurs. Ouais. Mais l'argent ce n'est pas tout. Non, nous on préfère les fleurs. Et c'est pour ça que vous et moi on consomme au maximum. Ouais. Oui, c'est pour ça que vous et moi on consomme au maximum. Yeah, yeah. Y'a mon ami Marquis qui fait pousser la vie avec des projecteurs, il fait pousser des fleurs. Et puis y'a mon ami Souci qui vend à prix d'amis. Yeah boy. Il arrive à toute heure et ça me fait chaud au cœur. Notre ami Dédé qui est parti en fumée. Ouais. Un beau gros trois papiers avec Bob Marley. C'est pour ça que vous et moi on consomme au maximum. Ouais. Oui, c'est pour ça que vous et moi on consomme au maximum.
Peur, pas pourquoi. Tu
C'était Consomme au maximum de Dupuis. Moi, je vous invite à consommer nos autres émissions sur canalem.vusezvoix.com et également sur les fameuses plateformes de streaming comme Spotify, Apple Balado, Google Play Musique. Merci à Michel Daunet, chroniqueur vinyle sur TED Publications, c'est TED Publications. Et également à Richard Leclerc, si vous allez justement sur notre site, vous allez pouvoir réécouter l'épisode du 14 juillet sur l'importance de l'engagement communautaire avec sa conjointe Andréane Larouche, députée de Shefford, et du 15 septembre sur l'évolution de l'enseignement au fil du temps. Merci à notre fabuleuse équipe, Maurice Bolduc, Louis Garon et Catherine Bourderon. Et la semaine prochaine, une rencontre qui, je l'espère, sera magique, l'autrice Kim Thuy. Portez-vous bien. À bientôt, chers auditeurs.